RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Florelle Mandat.
Bonjour et bienvenue dans votre émission 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant. Et nous parlons justement des enfants des rues. L'article 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant reconnaît le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Et pourtant, les Nations Unies estiment à 150 millions le nombre d'enfants définis comme enfants des rues, dont 60 millions en Amérique latine, 30 millions en Asie et 30 millions en Afrique. Ils ont entre 5 et 16 ans, ce sont les talibés au Sénégal, les bakoromanes au Burkina, chez Guy en RDC, les microbes d'Abidjan, le plus souvent des garçons. Il y a plusieurs catégories, certains vivent et dorment dans la rue, d'autres y mendient, ou par exemple trient les déchets, travaillent ou encore commettent des vols, des agressions. En France, des groupes de jeunes, pour la plupart marocains, ont pris possession depuis un an et demi du quartier de la Goutte d'Or à Paris, dans le 18e arrondissement, au grand désarroi des riverains. Mais alors, ces mineurs en situation des rues sont-ils un danger pour les citoyens? Doivent-ils être protégés ou neutralisés? Nous en parlons avec nos invités. Pierre Léon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes référent technique éducation protection de l'enfance pour ASMAE, Association Sœur Emmanuelle. Vous avez effectué une mission de 2 ans à Madagascar auprès d'une association locale et partenaire de ASMAE qui prend en charge les enfants en situation de rue. Nous serons également en duplex depuis Aix-en-Provence avec Muriel Champy, bonjour.
Bonjour.
Anthropologue, maîtresse de conférences au département d'anthropologie de l'université Aix-Marseille, vous êtes l'auteur d'une thèse sur les jeunes de la rue au Burkina Faso. Vous allez nous partager votre expérience à Ouagadougou auprès de la population de la rue, une initiative effectuée sans intermédiaire. Et puis nous serons également en ligne avec Marie-Espérance de Cèze, responsable pays aux Philippines, pour l'association ASMAE Sœur Emmanuelle. Et quant à vous, les voisins, si vous vous intéressez à cette question des enfants en situation de rue, si vous avez vécu cela, eh bien appelez-nous dès maintenant pour réagir sur ce phénomène. Dites-nous ce que ça vous inspire, 33 1 84 22 71 71. Sur WhatsApp aussi, avec des messages écrits que vous nous laissez.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Et nous commençons avec vos messages sur notre Facebook. Il y a Vincent de Cotonou qui dit « J'étais un enfant des rues quand j'avais 15 ans. J'étais obligée de mendier dans la rue et de faire des petits jobs pour pouvoir subvenir à mes besoins. Souvent, je me couchais sous des baraques. Ça a été vraiment un moment douloureux de ma vie. Si j'avais eu mes deux parents auprès de moi, je n'aurais pas vécu cette vie de voyou. » Lilia, également du Canada, nous dit « Un polygame qui a 12 enfants ne peut pas s'occuper convenablement de chacun d'eux. Arrêter la polygamie et limiter les naissances est une première solution. » Annick de Madagascar. Car les enfants des rues sont nombreux dans les grandes villes. Non seulement ils représentent un danger pour la société, mais il faut surtout se demander ce qu'ils deviendront dans une dizaine ou une vingtaine d'années. Les efforts que les dirigeants font en ce moment pour améliorer l'éducation resteront vains, puisqu'une catégorie de jeunes sera toujours en marge de la société. Enfin, un auditeur du Tchad. Il y a au Tchad de nombreux enfants des rues. Des associations en sortent certains de la rue et les forment dans plusieurs domaines comme la mécanique, la musique ou la couture. D'autres sont inscrits à l'école. Je suis sortie de la rue grâce à l'aide de ces associations. J'ai étudié jusqu'à obtenir une licence à l'école normale supérieure. Donc, je pense qu'il faut protéger ces enfants. 33 1 84 22 71 71. Suivez-nous également en direct sur Facebook et sur Twitter.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Depuis une trentaine d'années, nombreux sont celles et ceux qui se sont intéressés à ce phénomène et depuis l'an 2000, le sociologue Riccardo Lucchini a introduit le terme d'enfant en situation de rue. Une terminologie qui permet d'exprimer la diversité de situations de rue et de considérer l'enfant comme sujet, du coup de ne pas le stigmatiser. Surtout que les raisons pour lesquelles les enfants adoptent ce mode de vie, on le sait, sont nombreuses. Rupture familiale par exemple, catastrophe naturelle, pauvreté, instabilité politique, violence physique, mentale, sexuelle, entre autres. En quoi, Pierre Léon, il est important de ne pas stigmatiser ces enfants si stigmatisation il y a?
Justement, je pense que la dénomination enfant en situation de rue, elle tend justement à ne pas stigmatiser ces enfants. C'est-à-dire qu'avant, on utilisait l'appellation enfant des rues, mais le problème, c'est que justement, la rue ne produit pas d'enfants. Donc c'est pour ça qu'on utilise maintenant la terminologie enfant en situation de rue.
Donc il y a une stigmatisation.
Il y a une stigmatisation. Il peut y avoir aussi un rejet de la population, voilà, une perception négative. Mm-hmm. C'est vrai parce que du coup, on ne connaît pas ces enfants, on ne sait pas ce qu'ils font, etc. Et du coup, c'est le travail des professionnels qui travaillent auprès de ces enfants en situation de rue est important parce que justement, eux les connaissent et voilà, franchissent cette barrière de la stigmatisation pour les accompagner.
Oui, donc moins on stigmatise, c'est ce que vous nous expliquez, moins on stigmatise, plus on simplifie justement et peut-être plus on trouve des solutions efficaces.
Tout à fait. Plus de stigmatisation, c'est déjà enlever une barrière qui va permettre de comprendre l'enfant, de comprendre sa situation, de savoir dans quel milieu, dans quel environnement il évolue, pour justement être en capacité de lui proposer des solutions, essayer de répondre à ses besoins.
Mmh. On en reparlera justement de ces solutions. Est-ce qu'on doit justement les protéger ou alors les neutraliser? Et vous, Muriel Champy, un mot sur la stigmatisation. Je le rappelle, vous avez fait des recherches à Ouagadougou entre 2008 et 2018. Vous avez suivi un certain nombre de jeunes sans intermédiaire ou sans association. Qu'est-ce qu'ils en disent justement, eux, ces jeunes, de leur situation ?
Effectivement, il y a, au Burkina aussi, il y a cette idée que enfant des rues, ça voudrait dire fils de la rue. Comme si la rue était leur mère et qu'ils n'avaient pas de parents. Donc il y a un rejet de cette expression. Après, les jeunes avec lesquels j'ai travaillé, eux, ils s'auto-dénommaient Bakoroman, qui est un terme issu de l'argot de la rue.
Bakoro, qui est la rue, c'est ça?
Bon, c'est un terme, on ne sait pas vraiment l'étymologie du mot. Je pense que ça vient du nouchi ivoirien. Mais en gros, voilà, ça veut dire man, c'est l'anglais, et bakoro, voilà, les hommes de la rue.
Oui.
Et enfant en situation de rue, c'est vrai que ça reste quand même un terme plutôt institutionnel, enfin, un peu. J'ai jamais entendu une personne avec qui j'ai travaillé utilisait vraiment cette expression. Mais je comprends. C'est vrai que ça laisse une plus grande souplesse. C'est une situation, ça veut dire que c'est temporaire.
Et qu'est-ce qu'ils en disent, justement, ces jeunes, de leur situation quand vous étiez à leur contact ?
Moi, les jeunes avec qui j'ai travaillé, c'est des jeunes qui... d'une certaine façon, se présentent comme des aventuriers en quelque sorte, enfin des gens qui sont venus en ville pour gagner de l'argent, pour chercher du travail, gagner de l'argent et rentrer à la maison. Sauf que en fait, leur mode de vie est un peu en désaccord avec ce projet, vu que ils y restent pas forcément, mais ils mènent un mode de vie très marginal, très marginalisant aussi.
Oui, parce que vous dites aussi, Muriel, que ce phénomène est bien connu des Burkinabés, qu'à 14, 15, 16 ans, il serait normal de quitter le foyer, et que c'est comme ça qu'ils se présentent, et c'est comme ça que les familles les perçoivent.
Le plus souvent, c'est-à-dire que, en tout cas en Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose qui est assez présent, que les jeunes garçons à l'adolescence sont autorisés, voire même encouragés à quitter le foyer et à découvrir un peu le vaste monde, découvrir la ville, la modernité, se confronter au milieu du travail, et que c'est des expériences qui permettent de devenir adultes.
Oui.
Voilà. Et donc les Bakoroman, ils s'inscrivent un peu dans ce discours-là, même si en fait j'ai pu constater que souvent ils partent un petit peu trop tôt pour que ce discours de l'aventure juvénile soit
d'initiation,
tout à fait...
Oui,
une forme d'initiation, voilà, pour que ce soit tout à fait valable, parce que 12 ans, par exemple, c'est un peu trop tôt. Et à la différence d'autres migrants, par exemple, enfin d'autres jeunes de leur âge, c'est vrai que ça arrive qu'il y ait des jeunes qui partent de la maison sans forcément avoir l'autorisation de leurs parents. Mais en général, ils vont les appeler une fois arrivés en ville, ou ils vont prendre contact avec des membres de leur famille. Alors que là, souvent, c'est des jeunes qui font comme si ils étaient, comme si tout était normal.
D'accord.
Alors qu'en fait, quand on regarde en détail, on sent déjà une rupture ou en tout cas un écart par rapport à à la façon dont ça aurait dû se passer.
C'est vrai qu'au Sénégal, en RDC, en Côte d'Ivoire ou même au Maroc, en Amérique latine, on a pris l'habitude de voir ces enfants errer dans les rues à tel point qu'on ne les voit presque plus. Ils sont invisibles. Alors quoi, cette normalité, entre grandes guillemets, explique peut-être que l'on peine à trouver une solution adéquate, qu'on les laisse de côté, Pierre Léon ?
Ben, du coup... ce qui se passe, c'est que effectivement, moi, ce que je peux vous partager de mon expérience à Madagascar, c'est que les enfants en situation de rue, voilà, ils sont présents en permanence, ils font quelque part partie du paysage. Maintenant, voilà, il y a des associations locales qui travaillent auprès de ce public-là pour essayer justement de leur offrir autre chose que cette vie dans la rue, essayer de pouvoir leur donner l'accès à des services de base auxquels ils ne peuvent pas prétendre ou avoir accès au quotidien. Donc il y a tout ce travail-là de proximité à faire et qui est fait par des professionnels de terrain, des travailleurs sociaux issus d'associations locales.
Un travail de longue haleine, j'imagine.
C'est un travail de très longue haleine. C'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il ne suffit pas d'arriver et de dire à un enfant « bon ben tu vas me suivre, tu vas m'accompagner au centre, etc. » Ça ne se passe pas du tout comme ça.
Ça se passe comment, justement ? Alors, par exemple, à Madagascar.
Ça se passe comment ? Déjà, il y a une première étape qui passe par l'identification de ces enfants, voilà, qui peuvent se faire lors de maraudes, etc. Donc, il y a une première étape d'identification, de repérage, de prise de contact avec ces enfants. Et puis après, il va y avoir une étape qui va être assez complexe, c'est d'établir une relation avec l'enfant. Essayer de gagner la confiance de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile parce que les enfants n'ont pas forcément confiance dans les adultes. Donc il y a ce travail qui va être assez complexe. Il faut être à l'écoute, il faut observer, il faut respecter l'enfant, oui, etc. Et puis, une fois que ce travail de relation est engagé, il peut y avoir une enquête sociale qui va démarrer. Et là, l'objectif, eh bien, c'est de comprendre la situation de l'enfant, comprendre dans quel environnement il évolue, comprendre la situation de sa famille, voilà, c'est sa situation administrative, les revenus, l'état de santé, etc. Et une fois que ce travail est fait, il va y avoir toute la démarche d'accompagnement, de prise en charge, dont l'objectif en fait va être de répondre aux besoins de l'enfant par rapport à ce qui a été identifié en amont. Et donc en parallèle, les associations locales, ont des centres de prise en charge qui vont permettre de délivrer des services aux enfants et à leurs familles. Donc des services d'alphabétisation, des services de santé, l'accès à des cantines, ouais, scolaires, voilà. Tout ce genre de choses, des services d'hygiène, voilà, qu'ils n'ont pas accès tous les jours. Et l'objectif pour ces associations-là, c'est de les réinsérer, de les insérer ou de les réinsérer au niveau scolaire et social. Et c'est un objectif à long terme. Ça prend,
oui,
du temps.
À long terme, parce que ça fait depuis une trentaine d'années que ce phénomène existe. Et il y avait un message Facebook tout à l'heure, ils sont de plus en plus nombreux à Madagascar, donc c'est vrai que ça ne fonctionne pas tout le temps. Finalement.
En fait, il y a ce travail qui est fait par les acteurs locaux, mais à côté de ça, il y a tout le contexte, voilà, de la pauvreté aussi du pays qui fait que de plus en plus de familles et d'enfants se retrouvent à la rue. Donc, du coup, effectivement, l'équilibre, il est compliqué.
Oui. Et quelle est la perception de la population, justement, Muriel Champy, à Ouagadougou ? Quelle est la perception ? Est-ce qu'on les considère, voilà, comme un danger ?
Oui, bien sûr. Je dirais qu'il y a deux... C'est des sentiments un peu mélangés. C'est-à-dire que d'une part, il y a une peur ou une désapprobation assez forte, notamment du fait que, en tout cas, au Burkina, enfin, il y a c'est des jeunes qui consomment souvent des drogues,
oui,
notamment de la colle, et donc évidemment les voisins peuvent avoir peur de la mauvaise influence qu'ils peuvent avoir sur leurs enfants. D'une part ça, ensuite certains d'entre eux commettent des vols, donc là aussi il y a une désapprobation. Et en même temps, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que il y a aussi des relations parfois assez bonnes avec certains riverains. Il y a tous les jeunes avec qui j'ai travaillé ont des personnes un peu de confiance dans le quartier, une cantinière qui leur donne à manger gratuitement ou des marchands qui vont leur proposer de nettoyer un peu les ordures devant leur stand, des bars qui leur donnent gratuitement de l'eau, des choses comme ça. Donc finalement, il y a aussi une certaine tolérance devant les écarts de ces jeunes, mais c'est un équilibre fragile, disons.
Oui, un équilibre fragile, surtout qu'ils sont amenés à faire, vous parliez de prise de drogue, donc qui engendre la violence bien souvent, ils sont amenés à faire de la prison et des allers-retours en prison. Donc là, on est plutôt dans la répression. Est-ce que vous, justement, vous avez rencontré des jeunes comme ça?
Oui, effectivement, un certain nombre de mes interlocuteurs faisaient des passages en prison. Alors là, il y a une différence importante entre les mineurs et les majeurs, ou en tout cas ceux qui peuvent se faire passer pour mineurs, parce qu'ils n'ont pas toujours de papier. Et donc, tant qu'ils sont mineurs, en général... Les séjours en prison sont plus courts et moins fréquents, notamment parce que les associations font un travail de plaidoyer auprès des gendarmeries, des commissariats et de la justice pour éviter justement le passage en prison et travailler plutôt avec la réinsertion de ces enfants à l'extérieur. Après, les individus majeurs, c'est du point de vue pénal aussi, sont jugés différemment, plus sévèrement et peuvent plus facilement se retrouver en prison. Il faut savoir que les jeunes de la rue, par exemple au Burkina Faso, le vagabondage est interdit. On peut aller en prison pour vagabondage, par exemple.
Oui.
Donc rien que leur existence, si la police décide de faire respecter la loi, elle peut les envoyer en prison pour ça. La mendicité est également interdite, par exemple.
Oui. Il est important aussi de rappeler quelques chiffres quand on parle de ce phénomène. Selon l'UNICEF, en 2017, en Inde, plus de 150 000 enfants dans la rue à New Delhi et plusieurs millions dans le pays. Ils sont plus de 1 million dans le pays. En Thaïlande, plus de 180 000 enfants vivent dans les principales villes du pays. En RDC, au moins 40 000 enfants sont dans les rues principales du pays. Dans la capitale, à Kinshasa, ils sont plus de 20 000 totalement abandonnés. Réputés pour porter malheur, ils sont appelés enfants sorciers par la population qui les fuit et les persécute. En France, on estime à 40 000 le nombre d'enfants livrés à eux-mêmes, chiffre en augmentation provoqué par les fléaux migratoires. Et vous, les voisins, que vous inspire ce phénomène? Répondez-nous au 33 1 84 22 71 71.
Et 7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Et justement, nous sommes en ligne avec Mohamed, qui est un ingénieur de 25 ans à Madagascar, donc qui nous explique un petit peu ce qui se passe là-bas. Bonjour Mohamed.
Bonsoir Flora.
Florel. Alors donc vous êtes à Madagascar.
Vous êtes à Madagascar. Madagascar, ça arrive exactement.
Oui. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous constatez sur place.
Chez nous ici, la situation est un peu s'empire depuis de jour en jour parce que la protection des droits d'enfants se dégrade au niveau noyau familial, car c'est ce même les parents qui obligent leurs enfants à aller mendier dans les rues de la capitale. Donc cette situation vraiment est vraiment préoccupante vu que le gouvernement ne s'en préoccupe pas et ne se donne pas la peine de investir, de prendre en compte ces enfants dans les rues, dont on compte 2400 enfants à la capitale, dont seulement 300 jeunes et enfants sont suivis par des associations ou par des organismes internationaux. Donc cette situation fait que les enfants se débrouillent dans les rues, soit en volant ou soit en cherchant des travail dès leur jeune âge, au lieu d'être scolarisés à l'école. Donc la population actuellement à Madagascar ne se rend pas compte de cette situation de crise Mais le gouvernement promet d'améliorer, mais jusqu'à présent, il n'y a jamais eu aucune réponse sur ça. Donc, c'est une situation qui est vraiment qui est préoccupante et qui choque de plus en plus.
Mmh. Et vous, Mohamed, est-ce que justement vous participez justement pour faire évoluer les choses, améliorer les choses à Madagascar?
Moi, comme, en tant que citoyen, je n'ai pas vraiment les moyens à leur aider, mais y a des fois où, pendant le moment où, parce que vous connaissez que nous aussi, on connaît le froid, il y a des moments, donc on essaie un peu de se organiser afin de leur donner un peu de confort qu'on peut, le peu, le moins. Mm-hmm. Par exemple, des petites couvertures, des draps dans la rue, parce qu'il y a des gens qui dorment sur des cartons, sur des trottoirs, donc on essaie un peu de leur donner, mais c'est pas tout le temps qu'on a les moyens afin d'aider tous ces enfants, sans savoir qu'ils sont nombreux. Mm-hmm. Donc, c'est pas du tout évident de leur aider.
Oui.
Et qu'on voit que le gouvernement, tant et bien, en a les moyens, parce qu'il y a des certains moments où les membres du gouvernement, quand ils veulent se faire voter, ils descendent dans les rues faire des gestes, genre de donner des denrées alimentaires, mais c'est pas suffisant. Il faut un suivi de ses enfants, il faut les internets dans
d'accord.
Un endroit qui...
Merci Mohamed. Merci Mohamed. Une réaction, Pierre Léon, justement, vous qui étiez à Madagascar, sur ce que vient dire Mohamed.
Plusieurs réactions. Effectivement, je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il faut des actions sur le long terme et du suivi, et que des petites actions ponctuelles ne peuvent pas répondre à ce problème-là. Ça, c'est sûr. Effectivement, à Madagascar, on est confronté, ça arrive, à des familles qui envoient leurs enfants soit mendier, soit travailler, parce que la situation est tellement critique pour ces familles que l'objectif au jour le jour, c'est de pouvoir ramener une source de revenus. Donc du coup, pour certaines familles, l'enfant peut représenter une source de revenus. Donc il va aller dans les rues en journée pour mendier ou pour faire des petits travaux, pour amener un petit peu d'argent pour survivre au jour le jour.
Donc c'est aussi peut-être un travail à faire auprès des parents, des familles, de pédagogie justement par rapport à ces questions. C'est peut-être un travail comme ça qu'il faut faire également.
Alors il y a un travail de pédagogie, mais c'est quelque chose qui est compliqué et qui est complexe, parce que quand on est vraiment dans la survie au quotidien, on a beau dire et faire de la pédagogie auprès des familles, il faut se rendre compte de leur réalité. Donc après, c'est vrai que les actions sur le long terme, l'accompagnement et la prise en charge des enfants là, de ces enfants et de leur famille, sur le long terme, c'est peut-être de cette façon-là qu'on peut essayer à un moment donné.
Sur le long terme, avec le gouvernement? Avec des moyens plus conséquents?
Bien sûr, si les associations locales peuvent être épaulées par l'État, c'est quelque chose qui sera bénéfique, c'est sûr. Mais du coup, c'est quelque chose qui pourra évoluer sur du long terme.
Et actuellement, comment ça se passe justement? Les associations ont des moyens, sont accompagnées, épaulées, comme vous le dites, ou pas?
Les associations locales, elles sont engagées, elles sont dynamiques, etc. Mais maintenant, il leur manque aussi des moyens. Ils font un petit peu avec les moyens du bord. Ils bénéficient pour certaines d'aides financières qui leur permettent de fonctionner. Nous, ce qu'on fait donc chez ASMAE, donc juste j'en profite pour corriger,
on
ne dit pas ASMAE, on dit ASMAE.
Merci.
Du coup, nous, notre travail, c'est justement sur la durée auprès de ces professionnels-là de renforcer et d'améliorer leurs compétences pour que justement ils puissent avoir un impact plus fort auprès de ce public-là.
D'accord. Nous sommes également en ligne avec Annive, 30 ans, de Lumumbashi. Bonjour Annive.
Bonjour Florence.
Oui. Alors donc, vous êtes en RDC et évidemment, vous avez constaté ce phénomène depuis de nombreuses années. Dites-nous un petit peu. Partagez-nous votre point de vue.
Oui, oui. Vraiment, ce phénomène des enfants de la rue sont devenus de plus en plus nombreux ici à Lubumbashi. Et comme je travaille aux environs du marché, et nous le voyons souvent, ces enfants-là, ils sont là. Pourquoi ils sont là? Parce que l'un de ses parents est mort, ou soit. la famille qui devait les encadrer les ont abandonnés. Ils ont vraiment à leur triste sort. Oui. Et vraiment, c'est vraiment c'est vraiment triste de les voir comme ça, parce que quand ils sont là, ils sont devenus violents. Ils agressent les gens, ils volent pour manger et ils dorment dehors. Tout ça, c'est parce qu'ils ont été abandonnés et délaissés par leur famille. Ça fait vraiment très mal de les voir comme ça.
Et vous avez été en contact avec eux, vous en connaissez certains, Anive?
Oui, je le vois passer et parfois j'ai entendu les gens dire que si un jour on me donnait la chance de rentrer à la maison, là je devais rentrer et étudier comme tous les autres enfants. C'est ce qu'il faut pour eux. Certains enfants pour les encadrer et les aider vraiment, parce que ce n'est pas de leur faute s'ils sont comme ça, ils sont enfants de la rue, ce n'est pas de leur faute s'ils dorment dehors. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas demandé de naître, mais ils sont nés. Et dans la société, la famille les a rejetés. La société aussi ne s'inquiète pas d'eux. Mais ce sont des enfants qui deviennent nombreux. Et c'est un bon retardement. Parce que quand ils grandissent comme ça, sans encadrement, ils sont violents dès le bas âge comme ça. Quand ils grandissent là, ils seront des bandits. C'est pourquoi... S'il y a des organisations, ils peuvent les aider à s'en sortir.
Mais il y a des organisations à Lumumbashi. Il n'y a pas d'organisation à Lumumbashi, il y a des organisations.
Je sais qu'à un moment, c'était 5 ans, on les avait récupérés, on les a encadrés quelque part, mais maintenant cette organisation-là est foutue. Donc ils sont déjà revenus dans la rue. On peut le voir partout. Donc, parce que cette organisation-là qui les avait récupérés pour les encadrer, les aider à faire des métiers pour qu'ils s'en sortent et qu'ils deviennent des personnes responsables, cette organisation-là n'existe plus.
D'accord.
En tout cas, c'est vraiment des problèmes.
Merci Anif pour votre témoignage depuis Lumumbashi. Muriel Champy, vous avez entendu ce que vient de dire Anive, également Mohamed tout à l'heure. Est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à cela, notamment au fait que, elle disait que certains enfants sont encadrés, des enfants à qui on apprend des métiers, et puis après ils reviennent dans la rue?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je voulais dire peut-être à Mohamed et à tous ceux qui nous écoutent, c'est que... On peut tous faire quelque chose, et je pense que ce que ces enfants ont besoin, comme tout un chacun, ils ont besoin de référents, de conseils. On se rend pas compte de quelques paroles gentilles peuvent faire pour quelqu'un. Enfin, j'avais par exemple un jeune avec qui j'ai travaillé qui racontait que il a entendu un jour que sa sœur avait pris sa défense dans le quartier. Et que c'est rien que ça qui lui a donné le courage de revenir vers sa famille et de changer de mode de vie. Et voilà l'influence de ses voisins du quartier qui discutent un peu tous les jours avec ces jeunes de la rue. Enfin, c'est vraiment très important.
Donc un travail d'écoute, on peut tous
le faire. Parce que justement, c'est une façon de dire... Tu as un enfant comme les autres, on discute avec toi normalement et donc tu peux changer. Et si on vous regarde toujours avec des yeux soit effrayés, soit de pitié, parce que la pitié tue aussi, ça donne pas les ressources pour dire je peux changer. Voilà. Donc ça, c'est... Il y a évidemment l'aide matérielle, mais rien que ça. Et ça vaut aussi en France. Hein.
Ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, c'est de prendre en compte que ce sont des enfants, avant tout, qu'ils ont besoin d'écoute, qu'on les comprenne. Et parce que c'est vrai que bien souvent, du fait de leur violence aussi, les gens sont effrayés, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et par exemple, je discutais avec l'un d'entre eux qui me disait que une chose qu'il faut dire, enfant en situation de la rue, en situation de rue, c'est une catégorie extrêmement large où on met un peu tout dedans. Il y a des enfants qui rentrent à la maison le soir, par exemple, d'autres qui sont dans la rue tout le temps. Enfin, en fait, il y a des profils très différents. Donc déjà, il faut faire attention à ne pas tout confondre. Les possibilités qu'ont les uns et les autres, les modes de vie qu'ils ont dans la rue peuvent être très différents. Et donc, un jeune avec qui je discutais disait la différence entre un vrai jeune de la rue et les autres enfants, c'est que nous, on reste entre nous et donc il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de bon conseil entre nous. Parce que si tous vos amis sont des voleurs, par exemple, personne va vous dire d'arrêter. Voyez, et donc il est important que les familles, que les voisins fassent aussi leur travail, parce qu'il y a le travail des associations, mais les associations ne peuvent pas, et c'est pas leur rôle de suppléer à l'éducation des enfants. On dit que c'est tout un village qui éduque un enfant, et ça reste vrai, ou ça doit rester vrai, je pense.
Justement, nous sommes en ligne aussi avec Madiane depuis Thiès, qui est professeur et qui s'occupe des enfants des rues. Bonjour Madiane.
Bonjour Florelle.
Oui, bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites.
En fait, moi je suis un enseignant qui œuvre dans le social, surtout pour lutter contre le phénomène des enfants des rues. Après mes heures de cours, il m'arrive de les regrouper dans une salle, échanger avec eux, essayer de comprendre le pourquoi leur présence dans la rue, afin de les réorienter par une sensibilisation pour une reconversion. Bon. D'ailleurs, j'ai réussi à en sortir certains, et l'exemple, c'est un de mes élèves actuellement, il est dans ma classe,
oui.
Et je l'ai inscrit à l'école coranique.
Oui.
Je vous dis que c'est un excellent élève, et si je continue à l'assister, il a l'avenir devant lui.
Donc, vous avez sorti combien de... Justement, vous avez aidé à peu près combien d'enfants, vous, Madiane?
Non, le nombre varie, mais là, j'ai réussi à sortir un que j'ai scolarisé, et actuellement, il est sous mon tutorat.
Oui, d'accord. Merci beaucoup, Madiane, et aux autres auditeurs pour vos témoignages. Nous devions aussi être en ligne avec Sédou, 34 ans, de Ouagadougou, que vous connaissez bien, Muriel Champy, puisqu'il a passé 9 ans dans la rue de 96 à 2004. Et c'est un enfant en situation de rue. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui, Muriel?
Oui. Seydou, c'est une personne avec qui j'ai beaucoup travaillé depuis 2012. Donc qui a passé de longues années dans la rue, qui avait d'abord été à l'école coranique pendant 7 ans, où il a un peu il a été dans différentes écoles coraniques. Sa famille a pris ses distances en quelque sorte. Enfin, c'est une histoire familiale compliquée, et donc ils l'ont envoyé à l'école coranique aussi pour ne pas avoir à s'occuper de lui, parce qu'il y a différentes façons d'envoyer son enfant à l'école coranique. Il peut y avoir des situations où l'école coranique peut être enrichissante pour l'enfant.
Comment il s'en est sorti?
Et je pense que c'est-à-dire qu'il a grandi déjà, et qu'il s'est rendu compte que l'argent du vol, par exemple, ça n'apportait pas le respect des gens, que dans la rue il ne recevait pas les bénédictions de ses parents, et qu'il pourrait jamais être quelqu'un de respectable. Et donc là, il y a une association l'association Kéogo, et à l'époque c'était MSF qui avait un programme pour former des jeunes de la rue pour devenir père éducateur. Donc il est devenu éducateur pendant quelques années pour enfants de la rue.
D'accord.
Et aujourd'hui, c'est pas facile. Sincèrement,
oui.
C'est pas facile de quitter la rue, mais c'est aussi tout simplement pas facile de trouver un travail et de gagner sa vie aujourd'hui au Burkina Faso, quand on n'a pas été à l'école, et quand on n'a pas de famille pour vous soutenir. Et ça, je pense que c'est une situation que rencontrent de nombreux Burkinabés dans d'autres pays. Quelles opportunités il y a? L'agriculture qui emploie quand même la majorité des personnes encore aujourd'hui, elle permet difficilement de s'acheter une moto, je sais pas, un téléphone portable, d'avoir accès à la modernité. Ensuite, il y a les petits boulots dans les métiers manuels. Les métiers manuels, on doit faire un apprentissage très long où on n'est pas rémunéré, où ensuite il faut arriver à se mettre à son compte.
Oui, effectivement.
Et après, il y a les petits boulots qu'on peut faire. On va gagner 1000 francs par jour, 2000 francs, 500 francs par là. C'est très difficile de s'en sortir.
Effectivement, Muriel Champy, mais bon, l'une des solutions, comme vous le disiez, peut-être aussi, c'est peut-être effectivement de comme ces jeunes connaissent un peu cette situation, de se reconvertir en tant qu'éducateur. On va continuer la discussion dans 7 milliards de voisins sur les enfants en situation de rue. Mais pour l'instant, un petit peu de musique avec This Is, enfants des rues, justement.
Livré à lui-même, enfant des rues, s'habitue au drame. Mais où sont les pères? Ils sont perdus, ou dans les draps d'une maman. Solitaire, enfant des rues, c'est sûr fera des dégâts. Livré à lui-même, enfant des rues, s'habitue au drame. Ghetto, enfant du ghetto. Ghetto, enfant du ghetto.
Maman, elle s'en a pris, hein.
Ghetto, enfant du ghetto. Sacrifié très tôt. Vous créez des monstres, des faiseurs de tombes. Tombe dans un gang et tapis dans l'ombre. Ça shoot bang bang et tout le monde s'allonge.
Livré à lui-même, enfant des rues, s'habitue au drama. Mais où sont les pères? Ils sont perdus ou dans les draps d'une maman. Solitaire, enfant des rues, c'est sûr fera des dégâts. Livré à lui-même, enfant des rues.
Innocent, sacrifié très tôt. L'enfant cherchait le cash. Prend l'avenir en otage. Ça fait sa première peine. L'amour c'est pour les faibles. Prépare son prochain plan. Les livres c'est pour les blancs.
Tiens-nous le premier coup de fusil qui sème la zizanie. 9.3 sur 7 frontières Algérie-Mali. Viens de sauver ma vie. Perdu entre les Mexicains dont tacos et les mafieux de la porte d'Italie. Terrain héros, réception n'est pas des photos. C'est la transaction, t'as le micro de la gauche comme Récoma. Sombre histoire, j'appellerai mes potes si c'est trop haut. Fais ton corps qu'on paiera quelqu'un si c'est trop bas. Ça remonte les manches, ça met la turbo. Paluche dans la blanche, fais tourner la presse. Choisis bien ta branche, la caissière on la graisse. Tu t'es trompé d'adresse, si tu cherches les plus beaux. L'enfant n'a pas l'âge, mais l'enfant déclenche une émeute. Fais serment des poucaves avant que les cons délarment. Ils m'ont jeté au loup, je suis devenu chef de la meute.
Jamais, 7 milliards de voisins aujourd'hui, journée internationale des droits de l'enfant, et nous parlons justement des enfants en situation de rue. Nous sommes en ligne avec Espérance de 16, responsable pays pour l'association ASMAE. Sœur Emmanuelle, vous êtes aux Philippines depuis juillet 2017. Les Philippines, où vous dites que le tissu associatif est développé mais pas structuré. On estime à 1,5 million d'enfants dans les rues de Manille. Il n'y a pas de vrai recensement. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté, vous, Espérance de 16? Bonjour. Allô, bonjour.
Bonsoir.
Vous nous entendez?
Oui, bonsoir.
Oui, bonjour.
Oui, je comprends.
Allô, allô? La ligne est très mauvaise. On est en direct. Ok. Alors allez-y, expliquez-nous un petit peu ce que votre expérience aux Philippines, Espérance de 16.
Beaucoup d'expérience aux Philippines, on travaille donc avec les enfants de la vie à travers des associations locales.
Oui. Bon, Espérance de 16, on va vous rappeler parce que la ligne n'est pas très 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 bonne comme vous avez pu le constater. Ça, c'est la magie du direct. Pierre Léon, Muriel Champy, est-ce que ces enfants dont on parle se laissent aider facilement finalement? C'est difficile.
Mais oui, c'est difficile. C'est un peu ce que j'essayais d'expliquer et tout à l'heure. C'est que il suffit pas de leur proposer quelque chose pour qu'ils l'acceptent tout de suite. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Je peux vous donner l'exemple d'une éducatrice avec qui j'ai travaillé, qui m'expliquait un jour on a un nouvel enfant qu'on a pris en charge à notre centre. Il y a une place pour lui dans notre gîte de nuit, etc. Du coup, on lui a proposé qu'il vienne, mais en fait, on comprend pas. Tout est prêt pour lui, mais il veut pas venir. Alors qu'il y a une place pour lui. Ben, c'est normal, en fait. C'est normal qu'il n'accepte pas parce qu'il ne connaît pas le lieu, il ne connaît pas l'environnement, il ne connaît pas les adultes, il n'a pas forcément confiance, etc. Lui, ses repères, il se trouve dans la rue. Donc voilà, il connaît son quartier, il connaît ses amis, le groupe avec lequel il est au jour le jour. Donc voilà, ses repères, ils sont là. Et pour se faire d'autres repères et pour avoir confiance dans d'autres adultes, ben c'est quelque chose qui prend du temps. Donc il ne se laisse pas faire.
Mais alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment on fait justement, et puis pour les acheminer aussi vers l'éducation, qu'est-ce qu'on fait, Muriel Champy? Est-ce que c'est pas une approche un peu informelle aussi qu'il faut avoir?
Bah justement, effectivement, moi c'est ce que je défendrais. Parce que, enfin, Pierre Léon a tout à fait raison de dire que c'est difficile de changer ses habitudes, hein, quand on a des routines, on est tous comme ça. Aussi bizarre que ça puisse paraître, finalement, dans la rue, ils ont réussi à s'organiser un quotidien qui n'est pas évident de changer. Voilà. Il y a le fait que, en tout cas, pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas à Ouagadougou, que ce soit par la mendicité ou par le vol, finalement, ils arrivent quand même à s'assurer un revenu parfois même confortable, ou en tout cas
c'est ça.
Correct.
Mais alors qu'est-ce qu'on répond à un enfant ensuite, qui nous dit, par exemple, Muriel Champy et Pierre Léon, qu'est-ce qu'on dit à un enfant, par exemple, qui nous dirait, ben voilà, moi je gagne plus d'argent dans la rue que je vais en gagner, qu'est-ce qu'on lui répond à cela?
Alors, moi, de mon côté, l'expérience que j'ai vécue à Madagascar, c'est quelque chose que je n'ai pas rencontré. C'est-à-dire que les éducateurs avec qui je travaillais n'avaient pas d'enfants qui leur tenaient ce genre de discours parce que ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'enfants qui pouvaient se permettre de dire « je gagne plus que si je travaillais », etc. Mm-hmm. Parce que c'était vraiment de la survie au jour le jour. Donc, ce cas de figure, en tout cas, moi, je ne l'ai pas rencontré.
Muriel Champy?
Bah moi je l'ai rencontré et fréquemment, à vrai dire. Moi ce que je leur réponds et ils le savent eux-mêmes, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans la rue ils n'auront jamais le respect de quelqu'un. Et notamment de leur famille. Et quand ils grandissaient, il y avait ce discours qui revient très très fréquemment chez mes interlocuteurs, c'est le fait de ne pas avoir les bénédictions de leurs parents. Mmh. Voilà. Et que c'est donc pour ça qu'ils doivent quitter la rue. Et donc c'est aussi simple que ça. C'est que pour devenir quelqu'un, pour devenir quelqu'un de reconnu.
C'est aussi simple, ça fait quand même 30 ans que ce phénomène de société dure et mine de rien, on ne trouve pas de solution pérenne.
Je dis aussi simple, c'est-à-dire que l'argent ne fait pas le bonheur, voilà, c'est ça que je veux dire. Après, moi, ce que j'ai pu constater pour les associations à Ouagadougou, il y a une difficulté, c'est que moi, les jeunes avec qui j'ai travaillé, je pense que la situation est assez différente selon les pays aussi, hein, mais c'est des jeunes qui voulaient être autonomes, justement. C'est ce que je disais tout à l'heure, de gagner de l'argent, d'être autonomes. Et en fait, dans les associations, ils se retrouvent dans une position infantile. Mm-hmm. Souvent, ils sont trop âgés, en fait, pour être scolarisés.
Donc, besoin de s'autonomiser.
Donc, ils ne peuvent pas retourner vraiment à l'école, c'est un peu trop tard. L'apprentissage, finalement, ils ne gagnent rien. Ils apprennent un métier, certes, mais ce sera des années plus tard qu'ils gagneront de l'argent grâce à ça. Oui. Et du coup, il y a d'un côté l'envie de quitter la rue, et en même temps, il faut quand même... on a envie d'être autonome, de s'en sortir, de construire des choses et ne pas être juste dépendant de l'aide d'âmes charitables.
Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il faudrait peut-être aussi que le travail associatif réponde réellement à leurs besoins. Peut-être qu'ils ont besoin de s'autonomiser plus. Et à côté de ça, il y a à peu près 2 ans, on parlait tout à l'heure à Madagascar, Mohamed à Madagascar nous parlait du travail du gouvernement. À côté de ça, il y a 2 ans, l'État sénégalais a décidé de s'attaquer à ce problème en ramenant plus de 150 enfants dans les centres d'accueil et en annonçant des sanctions. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Puisque Muriel, vous le disiez, la mendicité, par exemple, est interdite et punie par la loi. Est-ce que voilà, ce sont des choses envisagées?
C'est envisagé. Moi, je ne défends pas les politiques répressives. Il me semble pas que ce soit. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je défends. Moi, je défends d'une part la mobilisation des familles et de tout un chacun pour parler avec ces jeunes, pour créer du lien, pour créer de l'envie et de l'espoir. Les familles sont grandes souvent. Et c'est aux oncles, aux tantes de proposer des petits boulots, des opportunités. Il y a toujours des gens qui pourraient faire quelque chose. Donc ça c'est au niveau des citoyens, des familles aussi, de dire c'est notre enfant à tous, il faut s'investir. D'autre part, c'est l'État. L'État au Burkina par exemple n'a pas les moyens d'interdire la mendicité. Ce serait les printemps arabes. Enfin, il faut créer l'emploi. Bon, par exemple aujourd'hui les nouvelles normes, c'est qu'un enfant doit aller à l'école, mais l'État ne donne pas les moyens aux familles de le faire.
Donc plus d'investissement de l'État. Est-ce qu'une grande campagne de sensibilisation justement des populations sur ce phénomène dont on s'est habitué aussi serait peut-être aussi une solution? Je ne sais pas si vous êtes au courant, par exemple. Il y a la série télévisée Invisible qui est diffusée sur Canal Plus Afrique depuis fin octobre, sur le parcours justement d'un jeune microbe, comme on les appelle, à Abidjan, qui a sombré dans ce phénomène. Et l'objectif du réalisateur est de comprendre ce phénomène de société. Et c'est la première fois justement que l'on traite de cette question dans une fiction. Est-ce que c'est le genre d'initiative aussi qui peut permettre aux populations de comprendre et d'évaluer les situations pour que ça change?
Alors oui, donc moi je connais pas cette série télé, mais je suis plutôt d'accord avec le principe, de dire que la sensibilisation peut être un premier moyen, quelque chose qui va favoriser l'intégration de ces enfants-là, parce que ça va permettre d'une part à la population, au grand public, et à d'autres professionnels qui à un moment donné vont être impliqués dans la prise en charge de ces enfants, et bien de comprendre quelle est leur situation, quel est leur quotidien, pour être en capacité d'agir de manière plus fine, de répondre aux besoins de ces enfants-là.
Oui, le mot de la fin pour vous, Muriel Champy, peut-être réagir par rapport à cette série, le mot de la fin pour vous?
Malheureusement, je ne l'ai pas vu, mais je suis très pressée de la voir. Mais je pense qu'effectivement, la sensibilisation est essentielle, justement, pour que chacun s'investisse. Et moi, par exemple, j'ai pu le constater en France aussi, on a peur des sans-abri, souvent, alors que souvent, quand on commence à discuter avec eux, on se rend compte qu'on a plein de choses en commun, qu'on peut discuter, et du coup, on cesse d'avoir peur. Et donc, nous aussi, on y gagne. Parce que au lieu d'avoir peur de ces enfants, on pourra avoir des discussions peut-être sympathiques avec eux. Donc, les enfants de la rue, ça peut les aider à justement imaginer un autre possible. Et à nous, ça nous permet de se sentir plus en sécurité, finalement, et de cesser de penser.
Merci
que...
Muriel Champy, merci Pierre Léon, merci à toute l'équipe. Demain, on se retrouve dans 7 milliards de voisins. On parlera des monnaies alternatives. À quoi servent-elles? Peuvent-elles remplacer la monnaie traditionnelle? On en parle demain.